Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Il est 11h passé de quelques instants sur votre radio. Vous comprenez que c'est l'émission Club de la presse qui démarre. Nous sommes au jeudi 24 octobre 2024 et bien sûr, c'est le quatrième numéro de l'émission Club de la presse pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitor Guetomega est à la mise en onde. Jérôme Akoutia assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci de nous recevoir partout au Togo, sur les ondes de nos radios partenaires, Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takbamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous le savez très bien, vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio. Premier confrère qui a déjà répondu à notre invitation, c'est Ambroise Kondo. Ambroise, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM. Bonjour.
Ambroise, je vais vous prier alors de changer de micro parce qu'il semble que votre micro ne fonctionne pas bien. Il y a un bruit de fond. Alors, Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour Michel et son second qui est de l'autre côté,
Jérôme
Akoutia. Bonjour les auditrices et auditeurs de Canal FM, ceux qui sont à l'intérieur que ceux de la diaspora. J'ai eu une situation intrigante et révoltante qui me survolte ce matin pour ne pas aligner les superlatifs. Mais je préfère pour le moment me taire et espérant que la situation viendra à évoluer, parce que dans ce pays, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a une situation d'injustice qu'on ne peut pas comprendre. Mais je reviendrai si jamais la situation n'a pas évolué.
Vous allez revenir alors sur le sujet.
Je préfère me taire d'abord.
Oui, si la situation n'a pas changé.
On y reviendra.
D'accord, on y reviendra. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que nous avons appris dans la soirée d'hier que nous avons perdu notre consoeur Dorothée Broom. Elle fut journaliste à Togo Presse. Et également, elle écrivait pour des magazines de la place. Je ne sais pas si vous avez appris l'information. Ambroise, c'est encore un choc pour la presse togolaise.
Oui, la situation de précarité et de stress permanente que nous vivons actuellement au Togo laisse entrevoir des jours pas si rassurants pour les professionnels des médias, notamment Dorothée Broom. Et les noms, je les confonds toujours, mais quand je retrouve les personnes, elles s'identifient. Il y a Dorothée Broom, il y a une autre Dorothée qui est à Top, et dont le nom de famille m'échappe, qui est une amie personnelle, et Dorothée aussi est une consoeur, une amie aussi. Et par contre, elle est très discrète.
Il y a aussi Dorothée, vous vous souvenez de la grande sœur Dorothée qui était également sur la TVT.
Dorothée Tabiou.
Tabiou, voilà.
Elle haute beaucoup, la connaît.
Tout à fait.
Et j'ai appris ça hier soir sur les réseaux. D'abord, je ne savais pas que c'était. C'est parce qu'elle était décédée. Salut. Moi, je la connais, ça fait plus de 25 ans sur le terrain. Et d'abord, elle est discrète.
Tout à fait.
Elle est complètement effacée. Mais quand tu lis ces papiers, ces articles, elle est efficace. Elle est spécialisée plus dans la culture, l'art.
Tout à fait, la littérature.
La littérature. Et elle doit avoir 60, près de 60 ans, 58 ou quelque chose comme ça. Et d'abord que la terre lui soit légère, emportée dans la fleur de l'âge. Le journaliste n'a pas d'âge. Hein. En matière professionnelle, on n'a pas d'âge. C'est comme si vous allez à Washington Post ou à New York Times, vous allez voir des vieux barbus avec des cheveux tout blancs, des gens 80 ans, 85 ans qui sont toujours journalistes.
souvent des directeurs d'information ou éditorialistes.
Ils sont nombreux dans la presse américaine, même dans la presse occidentale, française et européenne. Ils sont nombreux. Ça veut dire que le journaliste n'a pas de limite professionnellement. Et c'est vrai que quand vous travaillez dans le secteur public, la retraite s'impose à vous. Elle est à quelques pas de sa retraite, je crois. Mais elle est toujours celle qui est. Elle ne grandit jamais. Elle est toujours là. Et voilà, tout d'un coup, on apprend qu'elle est décédée.
Tout à fait. C'est l'essentiel. Elom Atisoubé nous a rejoint. Elom, bonjour. Voilà, il y a votre micro. Voilà. Bonjour. Il semble que les gens ne vous écoutent pas à la maison. Et j'espère que vous allez bien.
Oui, ça va. Je vous remercie. Ça va.
D'accord, ça va maintenant. Oui. Et nous parlons de cette triste nouvelle, c'est-à-dire le départ de notre consoeur Dorothée Brown. Je ne sais pas si vous l'avez connu.
Oui, surtout dans le domaine de la culture à Togo Presse. C'est une nouvelle qui attriste le monde de la presse. C'est vrai que c'est hier que l'information est tombée. C'est une très mauvaise nouvelle. Une consoeur qu'on perd aussi comme ça, avec toute l'expérience dont elle dispose. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de journalistes dans le domaine de la culture. C'est très rare maintenant de voir un journaliste beaucoup plus au Togo, avec une belle plume, qui se démarque dans le domaine de la culture. Ils sont très rares actuellement, ils sont très recherchés. Et je voudrais véritablement présenter toutes mes condoléances à la famille, aux familles éplorées, ainsi qu'à notre famille, c'est-à-dire la famille de la presse.
D'accord. C'est quelqu'un ou c'est une dame qui est très, très, très attachée à l'émission Club de la Presse. Et elle suit l'émission Club de la Presse. Et quand nous terminons même l'émission, elle n'hésite quand même pas de nous écrire pour donner aussi son appréciation, j'allais dire, alors sur un certain nombre de sujets, surtout quand il s'agit des sujets culturels. Mm-hmm. Chaque mardi, nous parlons culture, alors dans cette émission Club de la Presse. Donc, elle essaie toujours de nous apporter aussi du grain à notre moulin, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, c'est l'un des fidèles alors de l'émission Club de la Presse que l'émission vient de perdre. Alors, nos condoléances quand même à toute la famille et paix à l'âme alors de l'usque disparu. Et c'est l'essentiel. Alors, nous commençons cette émission, Ambroise, avec ce sujet que Flambeau des démocrates nous évoque, évoque alors ce matin à la une alors de son journal, bien sûr. Alors, Flambeau des démocrates écrit « Togo, alcool et tabac, sauver la jeunesse ». Alors, Ambroise, aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on doit on doit sauver la jeunesse pour ce qui concerne la consommation de l'alcool et du tabac.
Oui, ce sujet, on en parle souvent ici. La dernière fois aussi, on en a parlé. La manière dont le fléau gangrène les établissements scolaires, et non seulement les établissements scolaires, les quartiers, souvent défavorisés. Vous allez voir des jeunes que vous avez vus grandir, à peine 15, 16 ans, 20 ans, se retrouvent dans des réseaux, dans des clubs de jeunes, au sein desquels il y a des dealers. Ça y est, la méthode est tellement insidieuse que vous ne saurez jamais. Mais si vous connaissez votre enfant ou vous approchez quelques jeunes, vous allez les sentir. Nous qui avions fait Nikonakwe dans les années 80, c'est en 90, moi j'ai quitté Nikonakwe ici, à Tombato, ici au niveau de la lagune, la drogue n'était pas aussi connue, ça existait. Les gens jouaient, on appelle ça tcha-tcha et tout ça là. Et les gens se retrouvaient, certains viennent du Ghana, puisqu'il n'y avait pas la frontière, il n'y avait pas des barbelés. Et je me rappelle très bien que certains fumaient quand même l'herbe. C'est-à-dire que même à 100 mètres, quand on fume, moi je sens que c'est l'herbe. Nous, on n'en connaît pas. Mais souvent, quand vous êtes proche du milieu, vous passez souvent, vous remarquez qu'il y a des fumeurs, des dealers dans la zone. Ça a pris les établissements scolaires. Et on en a interpellé le ministre de l'enseignement primaire, en qui moi j'ai foi, qu'il a cette méthode pouvoir arrêter ça dans les établissements scolaires. Surtout les établissements scolaires et les milieux d'apprentissage. C'est très important. Parce que si on n'y arrive pas à mettre un terme à cela dans les écoles, là, la société est foutue. On a comme l'impression qu'il y a des gens dans le pays qui essaient de jouer le rôle de dealer facilement, où la drogue a complètement infiltré le pays et que on le sait, mais on ne dit rien. C'est l'impression que ça donne. La drogue vient d'où? Avec tous les services de renseignement que nous avons chez nous, Togo. C'est-à-dire qu'ils prennent même des gens qu'on ne peut pas prendre. Ils n'arrivent pas à débusquer les vendeurs de drogue. Là, ça en dit long. Ça en dit long sur la provenance de la drogue dans ce pays. Quand on parle de la drogue, au départ, nous, on se réfère à la Colombie, au Mexique. C'est là où on a les barons de la drogue, en Italie, en Sicile. Il y a des mafias qui sont là. Mais si on n'a rien de tout ça, la drogue vient d'où alors? Et comment les services de renseignement n'arrivent pas à savoir qu'il y a la drogue dans tel ou tel milieu? Il y a plusieurs questions qui me taraudent l'esprit. Comment ils ne peuvent pas savoir? Mais que nos agents de renseignement infiltrent les établissements scolaires, peut-être ils sont là, mais de débusquer ceux-là qui sont des dealers pour ne pas infecter la société, parce que ce qui reste pour la société, c'est les élèves, c'est les enfants. Si ces enfants-là ratent leur éducation, c'est tout le pays qui est foutu. Ça peut-être, certains ne le savent pas. Vous avez fait votre vie, vous avez fait vos études, certains n'en ont même pas fait, mais ils sont à des postes de responsabilité. Maintenant, ceux-là qui viendront vous remplacer, vous ne voulez pas qu'ils soient sains avant d'arriver à ces responsabilités-là? C'est la grande question qu'on doit se poser. On a comme l'impression que les gens ne font rien. On laisse le soin aux associations sur la loi de 1901 de faire ce travail-là, alors que c'est un travail d'utilité publique, c'est un travail qui incombe au pouvoir public.
D'accord. Oui, mais alors, c'est vrai qu'il y a des associations, des organisations hein, de la société civile qui militent beaucoup hein, pour la lutte contre même d'ailleurs la consommation de la drogue. On se souvient de cette association RAPA hein, qui également organise alors de temps en temps des visites alors de terrain dans des ghettos et tout. Mais le phénomène prend toujours de l'ampleur. On pourra dire, mais ça veut dire que la manière dont on doit prendre la chose à cœur ou la chose entre les mains, ça, on ne le prend pas, c'est ça?
Bon, vous savez, la sensibilisation ne doit pas faiblir, surtout en milieu scolaire. C'est vrai que le ministère des enseignements primaires et secondaires joue sa partition, mais on va l'exhorter à faire davantage pour que justement ce phénomène soit banni. Si par exemple on met à la disposition du public, de la population, un numéro vert pour pouvoir dénoncer ce genre de comportement au niveau des élèves qui s'adonnent à la drogue, à l'alcool, ça va être aussi bien, d'autant plus qu'on a une ligne verte aujourd'hui pour pouvoir dénoncer des cas de viol ou des faits de voies sexuelles sur des élèves en milieu scolaire. Et donc aujourd'hui, c'est très important que chaque personne ou chaque entité puisse jouer sa partition. On ne va pas se contenter que de dénoncer, que de pouvoir appeler ou bien de dire qu'il y a ceci, il y a cela, mais notre rôle aussi, c'est de sensibiliser, c'est de contribuer justement à sensibiliser les personnes, les élèves, les parents d'élèves par rapport justement à cette situation-là. La drogue, l'alcool en milieu scolaire, c'est vrai qu'il y en a à foison hein, dans plusieurs établissements, mais il faut qu'au niveau même de ces établissements aussi, qu'on puisse mettre en place des groupes de sensibilisation pour pouvoir... on en voit sur le terrain, on sait qu'il y a des initiatives éparses pour pouvoir lutter contre la drogue en milieu scolaire, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne doit pas faiblir, on doit continuer la sensibilisation, maintenir le flambeau pour que justement on puisse définitivement éradiquer cet état de choses.
Mais tel qu'Ambroise vient de le dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a des dealers qu'il y a aussi alors des consommateurs?
Oui, quelque part, il faut renvoyer toutes ces personnes organisées autour de ces établissements qui vendent des produits nocifs. C'est vrai qu'il y a des établissements où autour de ces... De la clôture, vous avez des gens qui soit vendent de la boisson ou de l'alcool, vous avez d'autres qui vendent des choses, des substances prohibées, mais ce n'est pas de nature justement à encourager les élèves à ne pas choisir cette voie-là. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de faire quoi? Ce qu'il faut faire justement, c'est que nous puissions, dans une certaine mesure, essayer d'encourager le ministère des enseignements primaires et secondaires à faire le ménage autour de ces établissements scolaires publics. Il faut commencer. C'est vrai qu'ils ont quand même fait pas mal de choses déjà, mais voir dans quelle mesure il faut renforcer les actions pour que, parce qu'il y a des récidivistes, des gens qui demain ne sont plus là, mais qui le lendemain reviennent. Donc, de temps à autre, il faut faire la veille, monter la garde pour que les responsables d'établissements scolaires, là également, regardent autour d'eux pour voir ce qui a lieu de fait. Parce que les gens, ils sont autour des établissements. Après, quand vous leur posez la question, vous dites je fais mon business, en réalité. Et je ne suis pas ici pour, voilà, j'ai l'autorisation, j'ai ceci, je fais mon business. Et donc, c'est compliqué dans ces conditions. Il faut que le ministère aussi, dans une certaine mesure, poursuive les actions déjà en cours pour assainir l'environnement de ces établissements scolaires.
D'accord. Nous sommes rejoints par Jean-Paul Rény. Jean, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour confrère studio. Bonjour à tout le monde. Désolé du retard. Ce n'était pas prévu, mais bon.
C'est indépendamment de ta volonté.
Non, je m'excuse quand même. Je n'ai pas à me dédouaner.
D'accord. Alors, nous sommes en train de parler de la consommation de la drogue au niveau de la jeunesse ou au niveau de notre société. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on voit la drogue qui circule même dans nos établissements scolaires. Là, ça ne se comprend pas, Jean.
Oui, aujourd'hui, la drogue est devenue, je vais dire, banalisée parce que dans beaucoup d'écoles à Lomé, et enfin des écoles privées, vous voyez comment les élèves se familiarisent avec la drogue. J'ai même appris qu'entre-temps, il y a un élève qui était arrivé et qui a partagé des bonbons à ses amis. Pourtant, ces bonbons, à l'intérieur, il y avait de la drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, de tout ce qu'on voit à la télé, c'est devenu quelque chose qui ne met plus guère. Parce que, vous savez, vous pouvez bien éduquer bien votre enfant à la maison, mais quand votre enfant va à l'école, il rentre dans un environnement différent. Et les compagnies que beaucoup aujourd'hui font à l'école, détruisent ces enfants-là. Beaucoup viennent dans ces établissements-là avec, je vais dire, déjà des comportements foirés, si je peux le dire ainsi. Et ce sont ces individus, ces jeunes-là, qui sont en train d'infecter leurs autres camarades, qui les entraînent dans ces bêtises-là. Et aujourd'hui, beaucoup d'écoles sont dépassées. Même un fondateur d'école qui m'avait dit en temps, je ne sais pas comment faire parce que la drogue prend une dimension inquiétante dans mon établissement. Nous faisons ce qu'on peut faire. C'est vrai que pendant les cours, les élèves ne fument pas. Mais quand ils sortent derrière l'établissement, ou bien aux heures de pause, ou bien ils trompent les parents, ils disent qu'il y a quelque chose à faire mercredi à l'école. Mais quand ces enfants viennent, c'est de n'importe quoi qui se passe. Et aujourd'hui, beaucoup de parents ont peur d'envoyer leur enfant dans les écoles privées. Parce que vous éduquez bien votre enfant. Mais quand votre enfant arrive à l'école, il y a un certain suivi. Je ne sais pas comment on peut le dire. Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour qu'au niveau des établissements scolaires, est-ce qu'il faut vraiment une police dans ce cadre? Mais il y a tellement d'écoles privées aujourd'hui à Lomé, on ne peut pas le faire dans toutes les écoles. Mais je me demande, qu'est-ce que le gouvernement peut véritablement faire pour éradiquer ce phénomène? Parce que si nous ne prenons garde, c'est un truc qui avait commencé de façon banale. Mais aujourd'hui, les jeunes, les petits, même les enfants, ils fricotent avec. Parce que ce n'est plus comme la poudre on donne, mais on dissimule ça dans la nourriture et vos enfants le prennent allègrement.
Ils deviennent
des friandises et ils deviennent accro à ça. Véritablement, il faut une véritable politique que le gouvernement mette en place pour sauver la jeunesse. Parce que si nous ne prenons garde, moi je me dis que la génération là qui est en train d'arriver, je ne sais pas quel type de Togolais nous aurons. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de jeunes qui viennent, les yeux sont rouges. Un jeune qui a le matin les yeux rouges, comment on peut expliquer ça? Il a les yeux rouges, il vous regarde avec des yeux hagards. C'est qu'il a pris sa coke, il a pris des stupéfiants. Donc, véritablement, invite à lancer aux plus hautes autorités de réfléchir et même, pourquoi pas, utiliser d'autres stratégies de sensibilisation amenées à montrer en quoi la drogue est néfaste à l'organisme. J'ai causé avec des lycéens un jour et deux d'entre eux m'ont dit, mais pourquoi vous luttez contre le chanvre indien? Parce que ça nous permet d'être bien, ça nous fait être à l'aise.
Tu as raison, il justifie cela.
Oui, il justifie que même ils ont fait des recherches sur Internet, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, on peut l'utiliser en santé. Et les jeunes étaient en train de rivaliser d'ailleurs avec moi pour me démontrer qu'en fait, ce qu'ils prennent, comme stupéfiant, n'est pas mauvais pour la santé, mais on l'utilise en médecine. Je crois qu'il va falloir, surtout au niveau de la communication, des contenus audiovisuels, et pourquoi pas sensibiliser davantage et montrer aux jeunes que la consommation de stupéfiants, ma foi, aujourd'hui, vous pouvez penser que ça ne vous fait rien, mais à la longue, votre organisme va en souffrir. Il y a un artiste de renom que nous connaissons, mais aujourd'hui, il a un talent brut, mais parce qu'il a versé dans ces trucs, mais il est presque inexistant. Je ne vais pas donner son nom, mais beaucoup peuvent savoir de qui je parle.
D'accord. On va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet évoqué à la une du journal La Nouvelle Tribune. Et là, vous écrivez ce matin, Togo Bank, Sunu Bank, encore en crise. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à Sunu Bank?
Bon, vous savez, c'est une banque qui a tous les problèmes du monde. Il faut le reconnaître. C'est que Sunu Bank a été bâtie sur les cendres de la BPEC, la Banque Populaire, qui elle-même a hérité de la situation de la Caisse d'épargne. Donc, de la Caisse d'épargne à Sunu Bank, on a l'impression qu'il y a des problèmes générationnels qui se suivent pour cette banque-là qui n'a pas fini de sortir la tête de l'eau. Quand j'en parle, je souris justement parce que c'est juste à côté de vous à la radio ici. Et vous savez, il y a une situation alarmante qui s'est créée dans cette banque-là. J'en ai parlé un peu la dernière fois sur ce plateau et j'ai dit justement qu'il fallait qu'au niveau de l'association professionnelle des banques et établissements financiers et au niveau du syndicat des banques, et que les gens puissent trouver une solution à cette situation. Et qu'est-ce qui se passe ? Actuellement, je ne vais pas dépouiller l'article de sa substance, mais il y a un air de crise dans la société, comme quoi, justement, on veut licencier une partie du personnel pour motif économique. Quand on vous dit motif économique, vous comprenez, motif économique. Maintenant, entre-temps, selon les informations qui nous sont parvenues, des discussions ont commencé et des syndicats du personnel ont saisi le Simbank, dont le secrétaire général se trouve être un cadre de Sunu Bank. Donc, actuellement, les discussions se poursuivent, d'une part entre les responsables de la banque, c'est-à-dire le DG du groupe Mohamed Bar, Mme Myriam Adotevi qui a rejoint entre-temps la holding, la directrice juridique du groupe, pour qu'il puisse y avoir un plan de licenciement sans phare et sans bruit, et, etc. Mais toujours est-il qu'actuellement, il y a une tension pas possible dans la boîte, et les uns les autres sont entrés, tout le monde se tient la tête. Vous savez que le tissu social est très fragile, et regardez ou voir encore une centaine de personnes à la rue, dans le cadre d'un plan de licenciement pour motif économique, c'est un peu catastrophique. Et donc quand on vous dit motif économique, vous savez que ça voudra dire que justement la situation de la banque n'est pas aussi reluisante. Depuis 2018, il y a une, deux fois, ou maxi trois fois, que Sunu Bank a fait un bénéfice, ça voudra dire que c'est une banque qui ne se porte pas aussi bien que ça. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs, il faut le dire, il y a plusieurs banques, enfin pas plusieurs, mais il y a quelques banques de la place qui ne se portent pas aussi bien. Et de toutes les façons, c'est une évidence. Et comme je l'ai dit sur ce plateau la dernière fois, quand vous allez aujourd'hui dans une banque, on a remplacé les personnes expérimentées par des jeunes qui viennent d'avoir un bac plus 2 et qui sont très très jeunes. Et c'est un peu ça, parce que c'est compliqué la situation dans certaines banques. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Sunu, c'est une alerte que nous lançons. D'abord au niveau de la PBEF, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, et ensuite au niveau du syndicat des banques. Et on plaide également pour qu'au niveau du Conseil national du crédit, qu'est-ce qui se passe ? Que l'autorité puisse véritablement accélérer la mise en place de l'Observatoire de la qualité des services bancaires. C'est très important parce que ce qu'on voit aujourd'hui, non seulement au niveau des services bancaires, l'accueil, la qualité, les informations qui doivent être données ne sont pas vraiment à la hauteur, ne satisfont pas les clients, mais aussi avec ce qui se passe, la clientèle, les employés, etc., il va falloir qu'il puisse y avoir un profond travail dans certaines banques de la place. Et donc, l'alerte de ce matin par rapport à Sunu, c'est juste un début, parce que nous suivons la situation de près, et nous reviendrons sur le sujet à chaque fois que nous en sentirons l'opportunité, parce que c'est quand même une banque pas des moindres du marché, et il va falloir que, dans le cadre de cette procédure de licenciement prévue, qu'il puisse véritablement y avoir un respect de la procédure, ou sinon qu'on sursoie carrément à ce plan de licenciement.
D'accord. Alors, Ambrose, quand on apprend déjà à travers ce que Elom vient de nous dire, que déjà il y a des licenciements même d'ailleurs qui sont en vue dans cette banque, alors Le personnel doit alors s'inquiéter.
Oui, parce qu'on parle de licenciement, c'est le travail qui s'en va comme ça, hein. Et donc c'est l'argent qui s'en va, et donc c'est la famille qui est foutue, quoi. Parce que derrière un employé, c'est peut-être une dizaine de personnes. Et donc, si tel est le cas, ça doit craindre. Et l'homme a bien fait de lancer l'alerte. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans les banques. Plein de choses qui se passent dans les banques. Les gens sont laissés comme ça. Les gens sont là pour 5 mois et demi. À 6 mois, on les laisse. On trouve quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est que on trouve quelqu'un d'autre pour travailler à votre place, quoi. On ne vous recrute pas. Ça, c'est une autre situation qui est alarmante et qui doit interpeller l'autorité compétente. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. D'abord, vous foutez la gueule aux clients, à la clientèle. Je ne parle pas d'une seule banque ni de deux. En plus, ceux-là qui sont de la diaspora ouvrent difficilement les comptes ici, alors qu'ils ont des familles aussi à nourrir ici. Trois, vous recrutez des gens. Un bon matin, vous les licenciez sans raison. Moi, j'ai un frère qui a été victime de ça. Je ne vais pas pour le moment citer la banque. Comment on dit ça? Je ne sais pas, ils ont leur terme là. Ils ont quelqu'un qui est à la caisse où on découvre un truc de 180 000. Vous le licenciez? Alors qu'il y a dans cette banque, selon plusieurs recoupements, des gens qui ont sur le dos plus d'un million qu'ils doivent à la banque. Tout simplement parce que on cherche à élaguer cette personne-là pour le remplacer par une copine. Parce que c'est ce qui s'est révélé par après. Et cette banque dont je parle, ce n'est pas des moindres. C'est la plus régionale des banques. C'est la plus continentale. Et la devinette est connue, hein. Mais je me dis que ça ne rassure personne. Ça ne rassure pas. Vous savez, quand nous faisons ça ici, les gens pensent qu'on exagère. Tant qu'il y aura des voyous, je pèse mes mots, tant qu'il y aura des voyous, il y aura des personnes morales voyous. Vous comprenez? Il y a des personnes morales voyous, vous comprenez ça? Et des personnes physiques voyous, nous aussi, on sera très contents d'être au micro tout le temps. Nous prenons notre plume pour dénoncer. Tant que les gens seront dans leur coin, parce que le pays, personne ne dit rien à personne, tout le monde est chef dans son coin, chacun décide de ce qu'il veut, nous aussi on sera là. Mais un jour, la justice les rattrapera.
Oui, mais Jean, quand on prend cette situation de Sonou Bank, ce n'est pas aussi une situation particulière, hein, mais aujourd'hui, peut-être avec ce que Elom nous a expliqué, on comprend quand même qu'il y a un problème de fond, hein, qui est là, un problème profond, j'allais dire, hein, qui est là dans cette banque, et il est très important quand même qu'on soit regardant et qu'on arrive à trouver des solutions rapides à cela.
Oui, c'est évident qu'il y a un problème qui ne dit pas son nom. C'est vrai que je ne maîtrise pas le fond du sujet, mais avec les bribes d'informations que j'ai pu avoir après l'intervention de l'homme, c'est dit qu'il y a un problème beaucoup plus lancinant qu'il va falloir régler à la base. Parce que aller de crise en crise en moins de 5 ans, ça ne fait pas bonne presse en fait. Et puis, c'est un indicateur qui prouve qu'il y a matière à revoir, peut-être au niveau du management, au niveau de la gestion même des choses. Et aujourd'hui, le licenciement, c'est l'arme abusive que beaucoup utilisent, beaucoup d'employeurs de grandes structures pour pénaliser, pour faire mal à beaucoup d'employés. J'apprenais également le cas de Dodoplast qui... la société Dodo Cosmétique plutôt, qui a également licencié certaines personnes qui sont en train de réclamer. Et je crois véritablement qu'au niveau des entités du code du travail, il faut que le travailleur soit beaucoup plus protégé. Le drame dans ces histoires, c'est que parfois, lorsque vous avez un souci avec un employeur et que vous allez vers ces entités-là, on ne sait pas comment ça se fait. Et puis après, c'est vous l'employé, c'est vous qui vraiment payez le prix des pots cassés et on n'arrive pas à s'en sortir. Et on se demande ben, à quel moment le Togolais lui-même sera pris en compte, à quel moment ses intérêts seront priorisés. Vous avez dans la zone franche beaucoup d'entreprises qui viennent, mais qui paient des salaires minables à nos frères, qui les exploitent et on ne sait à quel sens se vouer. Parfois fatigués, ils viennent, ils voient la presse. parce que c'est leur dernier recours. Mais, nous, la presse, qu'est-ce qu'on peut faire à part dénoncer? On n'a pas de pouvoir coercitif. On ne peut que dénoncer. Et parfois, vous dénoncez, c'est vous qui devenez l'ennemi des gens. Comme si vous avez un intérêt. Non, la presse, c'est comme l'éclaireur de la cité, c'est l'historien du temps. Il est la voix des sans-voix, la voix des orphelins et des veuves. Si quelqu'un a une difficulté, il n'arrive pas à atteindre le haut lieu, il vient vers la presse. Et la presse se fait violence, se donne le devoir de donner l'information pour que qui de droit vraiment puisse réagir à temps. Dans plusieurs pays, la presse a permis de construire ces nations. Mais dans nos pays, dans nos États, la presse n'est pas véritablement écoutée comme cela devait être. Au contraire, on pense qu'il faut la museler, il faut empêcher les journalistes parfois de faire véritablement leur travail.
Je vais dire un mot pour finir rapidement sur ce sujet. Vous savez, ce que nous sommes en train de dire là, c'est juste... on a l'impression que les gens écoutent, mais on a l'impression que c'est un petit truc, une petite affaire. Mais vous savez, c'est vrai, si vous voulez, dans une certaine mesure, procéder à un licenciement pour motif ou pour situation économique, on peut créer une société qui, demain, va commencer à faire faillite. C'est le cas de Dangote, l'homme qu'on présente comme le plus riche d'Afrique, qui a créé une raffinerie au Bénin, qui a deux doigts de faire faillite. Et quand vous prenez la situation de la banque aujourd'hui, vous avez un personnel qui est en état de santé fragile à Sounou Bank. Et ce qui se passe là, ce que je vous dis, c'est sérieux. Vous avez des gens qui sont malades. Et pire, le plan de licenciement prend en compte ces personnes malades. C'est-à-dire des gens qui sont souffrants et qui sont... On les met tous sur la liste. On dit on veut se séparer d'eux. Et pour motif économique, à un moment donné, non. Il y a des choses qu'on peut regarder aussi cela. Et il y a des prélèvements anormaux par rapport à la MU, sur les salaires des gens là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Sounou actuellement. Ce n'est pas normal. Alors que les dirigeants sont vachement payés, je vous dis. Mais on a connu un DG là-bas à Sounou, je ne vais pas donner le nom, qui était à des dizaines de millions de francs CFA par mois de salaire. Vous comprenez? Donc, en réalité, ce qui se passe au niveau du personnel, en tout cas au niveau de la Nouvelle Tribune, on a trop écrit sur Sounou Bank. Sounou, s'il y a une banque qui a... l'une des banques qui a le plus de problèmes, c'est Sounou. On a trop écrit. Depuis la Banque Populaire, où on détournait de l'argent, des techniciens de surface qui venaient prendre l'argent au guichet et tout, les GAB là-bas qui ne fonctionnaient pas correctement, on a trop écrit sur Sounou Bank. Une chef d'agence à Baguida qui disparaît avec des dizaines de millions qui est en cavale actuellement, mais en laissant sa voiture sur le parking de la banque. Et après, Sounou a eu toutes les difficultés, le groupe Sounou. Et aujourd'hui, on nous parle de plan de licenciement. On a l'impression que là-bas, même, il y a des problèmes. Le siège même a des problèmes et qu'ils doivent délocaliser la banque. Parce que, franchement, on ne peut pas traverser cette zone de turbulence depuis tout ce temps. Faire une privatisation, trouver un autre preneur et se retrouver dans les mêmes conditions jusqu'à parler d'une centaine d'employés à licencier. Vous savez, la situation qui s'est passée avec Yango aujourd'hui. C'est vrai que oui, l'opérateur que vous connaissez, VTC, n'est plus... dont les activités sont déclarées illicites. Mais là aussi, il y a un bémol, parce qu'il faudrait justement que l'opérateur se conforme à la loi. Et ça, c'est clair. Yango, quoi qu'on dise, n'a pas de siège au Togo, n'a pas d'adresse physique, n'a pas de carte CFE. Je n'invente rien, il faut vérifier. Vous allez voir, la base de CFA est là. Mais on ne peut pas venir sur un territoire opéré comme ça. Mais il emploie des gens. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, jusqu'à hier, il y a encore des véhicules Yango qui circulaient, un peu comme si on défiait l'autorité de l'État. Non. Mais nous payons. Ambroise a une société. J'ai une société déclarée. Mais si les gens veulent venir faire du business, ils sont les bienvenus. Mais il faut être ça conformément à la loi. Puisque, en réalité, on n'est pas en sécurité. Je commande, par exemple, un véhicule Yango. J'oublie mon téléphone portable. Je récupère ça où? Où est-ce que je peux récupérer mon téléphone portable? Si je commande un Gozem, je sais que je peux aller au siège. Si je commande BKG Speed, je sais que je peux aller au siège. Quand je commande Yango, je récupère ça où? J'attends le prochain véhicule que je vais le trouver peut-être 10 ans plus tard. Non, ce n'est pas sérieux. Donc, il faut que véritablement les gens puissent encadrer cela et voir dans quelle mesure renforcer leurs activités. C'est très important parce que demain... On va dire ceci, on va dire cela, mais on doit protéger également les emplois, faire les choses dans les règles de l'art, comme à Sounou, où il faut véritablement faire les choses dans les règles de l'art et tenir compte de la situation sociale.
D'accord. Nous allons faire un clin d'œil. Oui, Ambroise, si vous permettez, nous allons faire un clin d'œil au niveau de la technique. On revient juste après. 93.5. Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission. Nous continuons le débat ici au Club de la Presse. Intéressons-nous maintenant à une autre société, et c'est bien la société Bébé Lomé. Il y a le journal Le Changement qui écrit ce matin, quelques jours après le scandale du riz avarié, le directeur de Bébé Lomé, Thierry Ferraud, rend son tablier. Alors, Ambroise, je ne sais pas si vous avez aussi l'information sur cette démission, j'allais dire, alors du directeur général de Bébé Lomé. Est-ce qu'on peut mettre le lien avec cette question alors de riz, hein, ce phénomène de riz que nous avons vu tout récemment, ou nous avons appris tout récemment?
La logique est faite immédiatement parce que c'est un Européen. Hein. Ce n'est pas un Africain. Hein. Même s'il a la retraite, il ne va jamais quitter là-bas. On a beau amener les agents du SCRIC, les agents, les chars pour amener là-bas la direction là-bas. Il ne va pas quitter. Il ne va pas quitter. Tant qu'il est en vie là, il va rester là-bas. Même il peut avoir le dernier des missiles russes, le monsieur va rester. Ici, on parle d'un blanc. On parle d'un Français qui est affecté là-bas pour juste 2 ou 3, au pire 4-5 ans. Et tout le rapport est fait à la hiérarchie. Je n'invente rien. Tous ceux qui sont affectés, que ce soit Total, que ce soit Newto, que ce soit à leur banque là,
et société générale,
tout ça là, ils ont un temps. Après tout, on les affecte. Lui, là, il a quitté par anticipation parce qu'il y a eu un problème. Et les Blancs sont sensibles à cela. D'abord, le Blanc, la culture de la démission. Tu viens d'en parler. C'est pas nous. Hein. Il y a des Togolais aussi qui ont la culture de la démission. Les Africains, les Senghor, il y a plein de gens qui aussi, les Modibo, et pas Modibo, le Cameroun, Amadou Ahidjo, les gens ont quitté, ont démissionné.
Il y a notre compatriote Kakonou Boukpo.
Kakonou Boukpo, il y a encore d'autres ici, Togolais aussi. Même l'autre là, le DG de Sodigaz, qui était Jonas Gaou. C'est lui-même qui est parti à quitter la présidence du conseil d'administration à la société. C'est-à-dire que si vous êtes éduqué, ça c'est le premier mot, vous êtes lettré, c'est-à-dire que vous êtes instruit et vous avez un niveau intellectuel, pas grand, pas forcément à l'excellence, mais vous êtes humain, il y a des choses que vous n'acceptez pas, vous quittez. Et le Blanc, moi, je salue son départ, même si ce n'est pas sa propre volonté. Sûrement que ce n'est pas lui-même qui a démissionné. Le rapport l'a obligé à quitter. Parce qu'il y en a qui viennent de la Côte d'Ivoire, ils sont français. On fait des mutations. Hein. Tu peux quitter la Centrafrique pour arriver ici. Tu peux quitter tel ou tel pays. Mais ici, ou le Bénin. Mais ici, si c'est que lui-même, j'ai mis une analyse personnelle, c'était lui-même qui avait pris cette décision, ça aurait pu être au lendemain. Parce que les Blancs fonctionnent comme ça. Là, le scandale a fait buzz dans les médias. Dans la semaine, le monsieur va démissionner. Mais ici, comme ça a traîné, sûrement que le rapport ne lui est pas favorable, on est obligé de le démettre et de lui trouver un autre poste.
D'accord. Alors, Jean, est-ce qu'on peut voir dans cette situation de démission du directeur général de Bébé Lomé une sorte de sanction par rapport à ce qui s'est passé?
Oui, c'est fort probable. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de communication officielle sur la démission du DG de la BB. Mais il faut dire que cette démission intervient à peu près moins d'un mois après le scandale dont la BB a été éclaboussée. Et vous savez, souvent, c'est des stratégies souvent qui viennent de l'Occident. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, bien dans les structures qui se respectent, lorsqu'il y a un scandale, il faut qu'une tête tombe pour que ceux qui se sont sentis, ma foi, touchés par l'action soient un peu réconfortés, un peu calmés. Donc, apaisés, voilà, tu me passes le mot. C'est une des actions qu'on pose souvent. C'est-à-dire le premier responsable démissionne pour dire, oui, je prends sur moi l'entière responsabilité de ce qui est arrivé. Oui, mais comme Ambroise l'a dit, il y a eu un bon temps avant que la démission n'intervienne. Même si on ne nous dit pas que c'est dû au scandale du riz avarié, il est fort à parier que c'est probablement lié à ça, parce que le DG en question, il n'avait pas de problème. C'est-à-dire, même récemment, ils ont lancé une campagne de communication sur des produits. Je crois que tout était en bon roulait sur de bonnes roues pour lui. Et il faut reconnaître qu'il est arrivé depuis 2015, il fait 9 ans actuellement.
Et c'est le plus long règne d'un dirigeant de la BBO Togo. Et bon, il part, je ne sais pas à quel niveau il sera maintenant, mais il faut quand même dire que cette démission actuellement vient sonner comme, tu l'as quand même dit, une petite sanction, même si on attendait beaucoup plus. Parce que après ce scandale, après ce qu'on a vu, après les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et même qui ont corné l'image du pays, une simple démission d'un DG ne suffit pas. Même si c'est pour calmer la situation, il faut beaucoup plus.
Est-ce que vous auriez voulu?
Non, pourquoi pas un dédommagement? Pourquoi pas, mettre quelque chose en place au bénéfice des localités, des populations de la localité qui ont été victimes de ce rien varié? Parce que, et pourquoi pas une sanction de l'État? Parce que il y a beaucoup de règles procédurales qui ont été viciées. On ne peut pas passer ça en perte et profit comme ça, pas de communication après, et puis bon, aujourd'hui que le DG a démissionné, non, ça ne peut pas nous être brandi comme une simple sanction. Il faut beaucoup plus, et beaucoup de gens attendent, et beaucoup se demandent quelle est la suite qui sera donnée à ce scandale du rien varié, parce qu'on ne peut pas se limiter à cela.
Je viens d'apprendre qu'il a été viré. Je viens tout de suite d'avoir une information concordante que le monsieur a été viré. C'est-à-dire que faut pas chercher à rencontrer. C'est-à-dire qu'il a été viré, quoi. Heureusement que mes analyses sont allées dans ce sens. D'accord. Parce que si le monsieur, aussitôt le scandale qui a commencé sur les médias, il aurait pu démissionner dans la semaine, dans la culture du blanc. Mais lui, il a voulu jouer aux Africains et il a été pris par rapport, il a été viré carrément.
Oh, oui, mais l'homme, si il a été viré, tel que Ambroise le dit, est-ce que c'est un soulagement pour la population qui a été, en quelque sorte, qui a été plutôt au cœur même d'ailleurs de cette question, de ce scandale de riz?
Bon, je crois que cette situation appelle beaucoup plus à la prudence et à la responsabilité de l'entreprise. Parce que, vous savez, c'est une entreprise qui a toujours défendu le fait qu'elle soit responsable vis-à-vis même de la population et qu'elle veille davantage à la sécurité, à la santé, à l'environnement, selon ces certifications qui ont été attribuées par les organismes que vous connaissez. Mais la situation en cours, qui a débouché sur le départ du DG Thierry Ferraud, ça a peut-être un lien avec l'affaire que vous connaissez, qu'on connaît tous, dont on a parlé sur ce plateau plusieurs fois.
Tout à fait.
Et c'est quand même regrettable, justement, que les choses se soient passées ainsi pour une entreprise qui fait quand même 60 ans de parcours au Togo et qui connaît bien ses attributions, ses responsabilités. Et on espère que de telles choses ne se reproduisent à l'avenir parce que, justement, ce n'est pas bien que les choses aient pris cette tournure. Et moi, ce que j'ai regretté dans la démarche de la structure de l'entreprise, c'est le fait qu'à la fin du communiqué qui a été publié la dernière fois. On a tous lu le communiqué hein, par rapport à ça. C'est vrai, ils ont réagi, ils ne se sont pas tus, l'entreprise a réagi, mais qu'on ne présente aucune excuse à qui que ce soit. C'est-à-dire un peu comme si tout allait bien. Ça, c'est une erreur monumentale. On ne peut pas avoir des structures qui sont là, vous avez des services qui sont dédiés, et vous faites un communiqué du genre qui concerne la santé publique d'une population, et vous ne pouvez même pas mettre une seule phrase pour présenter des excuses à la fin de ce communiqué vis-à-vis de ce qui s'est passé. Tant aux consommateurs, tant aux autorités, à toutes ces personnes qui se sont senties ou bien qui sont impliquées dans cette affaire, vous présentez des excuses publiques. Et la BBI n'a jamais présenté d'excuses publiques. Je suis désolé, mais ce n'est pas comme si on commandait leurs excuses. Mais ça va de soi. Et c'est la première chose qu'ils allaient faire dans le communiqué. Je suis désolé, mais c'est la vérité. On ne peut pas avoir tous ces responsables-là faire ce scandale et ne jamais présenter d'excuses publiques. C'est grave.
Oui, même oui, quand ils n'ont pas d'excuses, quand vous voyez le communiqué de la bébé, ils n'ont pas reconnu qu'ils ont failli dans le communiqué. Ils ont été,
ils ont justifié,
disant non, qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais c'est la population qui a fait quoi, nanana. Bon, ouais, des trucs comme ça.
Une période d'incident.
Incident, c'est-à-dire on a minimisé en fait ce geste. Bon, moi si ils n'ont pas pu reconnaître, moi je m'attendais pas à une quelconque excuse, parce qu'ils sont sur une droite ligne. S'excuser voudrait dire que on reconnaît qu'on a mal fait. Du moment où les gars n'ont pas reconnu qu'ils ont mal fait, ils se diront, bon, pourquoi s'excuser? C'est comme se faire harakiri.
Oui, mais en bref, quand on parle des sociétés, c'est vrai, il nous est revenu hein, que déjà, quand on prend aujourd'hui les factures ou les carnets de factures normalisés au niveau alors de l'OTR, il n'y a plus même d'ailleurs ces carnets alors de factures, de telle enseigne que les sociétés en souffrent parce qu'il y a des gens quand même qui doivent délivrer ces factures-là. Mais quand on va au niveau de l'OTR, on n'en trouve pas. Mais là aussi, il est très important quand même que l'OTR arrive à communiquer là-dessus.
Oui, vous savez, donc en vous disant que c'est un sujet sensible, moi, chez moi, ce n'est pas sensible. Parce que quand la chose n'est pas bien faite, il faut avoir le courage de le dire. Si vous demandez aux gens d'avoir des vignettes, tout ça là, prenez des dispositions pour communiquer. Mais il y a sur l'OTR communique sur beaucoup de sujets. Même simple vente aux enchères, vous le trouvez ça dans la presse. Ça y est, il suffit même qu'il y ait un concours, vous le trouvez ça. Ça, c'est une bonne chose en termes de communication. Mais ce qui touche la sensibilité des entrepreneurs, des commerçants dans le pays, et qui fait aujourd'hui parler beaucoup dans le pays, que les gens ont fermé, trop de taxes et tout ça, je n'invente rien, l'élargissement fiscal a fait fuir certains, et beaucoup se plaignent. D'ailleurs, beaucoup se plaignent au point que beaucoup des produits ont augmenté le prix, et quand vous leur demandez, on vous dit que c'est la taxe de l'OTR qu'on a fait. Mais s'il y a des choses que vous faites, communiquez aux gens, pour que les gens ne soient pas dans le doute, pour que les gens ne vous envoient pas dans le pauvre pour dire que vous faites un travail qui est de salubrité publique, un travail qui renfloue les caisses de l'État, mais faites-le dans la transparence. Faites-le pour que tout le monde sache que vous faites un bon travail. Maintenant, cette affaire-là, je me rappelle quand on a commencé ça, mais je ne me suis plus intéressé parce que c'est vrai, je ne suis pas commerçant, mais je pouvais m'intéresser quand, comme tu me le dis, quelqu'un d'autre, si quelqu'un m'en informe. Moi, je ne suis pas opérateur, mais il appartient aux opérateurs de nous approcher, de temps en temps, nous dit que on nous a dit de faire ceci. On en fait tant parce que nos institutions, qu'est-ce qu'ils font? Si, ou qu'est-ce qu'elles font? Si elles sont dans une logique où il y a certaines choses qui se font, ce n'est pas forcément le patron qui est le problème. C'est des agents, certains agents qui sont des agents véreux, ou c'est certains directeurs dans un coin là qui créent leur cinéma. Mais venez nous voir, nous on va en parler. On va en parler. Moi, je sais, M. Chaudier, il y a des choses qui se sont produites à l'aéroport. Le monsieur, on l'a appelé, on l'a approché pour en savoir plus, mais les gens ont été virés là-bas. Les choses se produisent au port là-bas. Il suffit que le monsieur, il écoute, il vous entend. Monsieur, vous êtes viré. On fait l'investigation. Si vous êtes fautif, vous êtes viré. Et donc, les gens, quand nous approcher, s'il y a des trucs comme ça, on interpelle le commissaire général. S'il y a de tels cas, mais en tout cas, lui, il ne pardonne pas.
D'accord.
Ça dit que si c'est mal fait, à ma foi, il va le corriger. Parce qu'il est là-haut, sommet là-bas, mais il ne sait pas ce qui se passe en bas. Mais c'est les médias qui en parlent, ou soit il est au courant en sourdine et il agit.
Voilà. Oui, les gens.
Oui, sur la question des facturés, véritablement, il faut relever que c'est un problème. Nous avons été également interpellés sur le sujet. Et récemment à Lomé, il y avait plus de facturiers pour ceux qui ne facturent pas la TVA et qui sont réels. Il y a plus de facturiers réels sans TVA. Vous allez à Lomé, même à Dapon, il n'y en a pas. Et la dernière fois, il a fallu aller jusqu'à Saint-Cassé pour en trouver quelques-uns qu'il restait. Mais quand vous abordez les caissiers, ils disent qu'ils ne savent pas. Est-ce que l'OTR veut basculer dans un autre système? Aucune communication pour le moins n'est faite. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus véritablement de facturiers avec la réelle sans TVA.
Mmh. Alors, le souci, c'est que déjà, quand vous faites même d'ailleurs des factures simples avec vignettes là-dessus, c'est refusé par les entreprises. Donc, toujours est-il qu'on a besoin justement alors de ces facturiers, surtout pour la facture normalisée.
Oui, c'est une évidence. Je crois que peut-être ça a dû être un problème de fourniture ou un problème par rapport aux prestataires. Mais de toute
mais
la
là
façon,
aussi, il faut communiquer.
Oui, ce n'est pas la première fois, je crois. Je crois que j'étais confronté à ce problème aussi entre-temps. Il y a cela quelques mois, mais le jour où c'est revenu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un stock de factures. Et c'est mieux parce que, écoutez, je ne voulais pas revivre la même expérience. Donc, j'ai pris mes dispositions. Et donc, moi, j'invite les contribuables, justement, à prendre leur mal en patience et aussi à demander à l'OTR de faire diligence parce que si les gens font des prestations, ils doivent déposer leurs factures. Donc, il faut que l'OTR fasse diligence pour que les facturiers soient disponibles Et ensuite, que les gens, quand ils vont passer à acheter les facturiers, qu'ils en achètent 4, 5, 6 hein, au lieu d'un ou deux. Parce qu'il faut se mettre à l'abri de tels désagréments à l'avenir. Donc, voilà un peu ce que je peux dire.
D'accord. Jean-Paul Revy, nous allons nous intéresser à ce sujet que vous évoquez. Hein, à la une de votre journal Canal D, vous écrivez « Administration territoriale, déclaration d'association au ministère de l'administration territoriale. Les prix ont changé. » Alors, aujourd'hui, pour déclarer des associations ou une association à l'administration territoriale, c'est quoi le prix?
Oui, vous savez, il y a plusieurs types d'associations. Vous avez des associations sociales, religieuses, des ONG. Vous avez également les associations étrangères. Je ne vais pas épuiser totalement l'article, mais il faut dire que la décision de modification des prestations du ministère de l'administration territoriale dépend du ministère des Finances qui, à travers un arrêté, a modifié les coûts de ces services que le ministère offre. Et je vais juste donner un exemple pour les associations à but non lucratif national, le coût est de 30 000 francs. Maintenant, pour le reste des associations, le citoyen peut se procurer notre journal et vous aurez tous les tarifs à l'intérieur.
Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui constitue le motif alors du changement?
Le motif, à travers l'arrêté que moi j'ai vu, il est dit que c'est pour se conformer aux nouvelles normes et aux nouvelles dispositions en fait du ministère. Voilà, c'est sur cette base que les prix ont été modifiés par le ministère de l'Économie et des Finances. Il n'y a pas eu trop de commentaires dessus, mais quand même, nous observons que depuis quelques jours, les tarifs des prestations ont augmenté.
Voilà. Oui, mais Ambrose.
Oui, mais c'est
grave. Oui, moi, je trouve que c'est grave parce que je crois que cette décision forcément se rapproche à celles qui demandent aux gens de ne plus c'est difficile d'avoir un récépissé d'avoir au Togo. Il y avait une loi qui lorgnait les associations qui sont créées, les ONG qui recevaient même des financements, tout ça là, tout ce milieu là, je crois que ça se rapporte à cela. C'est-à-dire, on ne veut plus des associations dans le pays parce qu'on va vous dire qu'on ne sait pas ce que vous faites. Et donc, comme ça se passe ailleurs, on est en train de vouloir décourager les créateurs d'associations chez nous, alors que la loi de 1901 donne la possibilité à tout citoyen de créer une association de façon déclarative. Vous déclarez l'association et on vous remet un récépissé. C'est vrai qu'il doit y avoir un statut, un règlement intérieur ou l'Assemblée générale qui fait temps et temps, mais demandez aux gens de payer une somme, malheureusement, mon autre frère, on devait savoir le montant. Pour
pouvoir... C'est 30 000.
30 000,
30 000 maintenant, au lieu de 15 000.
Donc, c'est une taxe. C'est une taxe qu'on est en train. C'est-à-dire que, sur tous les plans, nous sommes foutus, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, on souffre. On est dans la misère. On prend tout cet argent. J'ai bien parlé des taxes et des impôts. Je dépose ça à gauche. Mais là, à droite, il y a plein de choses sur lesquelles se sont greffées d'autres frais, quoi. Quand vous demandez à ceux qui vendent les boissons pourquoi ils ont augmenté, on vous dira que c'est parce qu'on a augmenté. Moi, je demande, l'argent là, on fait quoi avec? Les 30 000 francs là, c'est vrai que ce n'est pas comme on va au marché, on achète, on part. C'est-à-dire que les gens ne se sont pas alignés là-bas pour avoir le récépissé. Comment c'est que les gens demandent là? Pour donner maintenant raison, pour se donner raison que, ok, moi, on vous donne le récépissé, vous devez chercher de l'argent. C'est vrai pour certains, 30 000 francs, c'est rien. Mais pour d'autres, dans des fermes, dans les villages, il y a des sessions qui sont créées juste pour travailler dans le village. Ils vont trouver les 30 000 francs où? Les gens, quelqu'un va me dire, oh, pourquoi ils vont trouver ça? La personne va trouver ça où? Pour un récépissé? Nous sommes dans un régime déclaratif. Non, il faut que nos autorités arrêtent ça. Franchement, moi, ça, j'ai honte des fois. C'est-à-dire que je comprends ceux-là qui disent qu'ils ont honte d'être Togolais des fois, quoi. C'est-à-dire que certains ont été Togolais de père et de mère béninois. Aujourd'hui, vous dites qu'ils sont béninois. Vous n'avez jamais entendu ça?
Mais Ambrose, est-ce que ailleurs aussi, quand on fait une déclaration d'association, ça ne se paie pas?
Si on me demande de payer la quittance à 5 000 francs, moi je ne veux pas contester. La mairie, au niveau des mairies, au niveau des dossiers officiels, des dossiers administratifs, le terme c'est à 500 francs. Il y a des choses qu'on vous demande, un peu comme nationalité, c'est 5 000 francs. Peut-être demain aussi, ils vont augmenter à 15 000 francs, je ne sais pas. Le passeport, là, je suis d'accord, parce que là, c'est un peu plus élevé, quoi. Maintenant, la carte d'identité, c'est 5 000 francs. Peut-être demain, on va dire que c'est 10 000 francs. Maintenant, si un élève terminant qui peut faire aussi une carte d'identité...
Pour moi, c'est 5 000 francs.
Oui, et moi, je souhaiterais qu'on en reste là. On peut même ramener à 2 000. C'est comme au niveau de la HAC, on peut ramener la périodicité à 5 ans. Nous, on accepte, ils disent à combien c'est à 10 000 francs.
C'est
3 ans avec 10 000. Là, je salue la HAC, parce que la HAC est en train d'évoluer vers le bon côté.
D'accord.
Okay. Je vais dire un mot sur
ça. Oui, rapidement.
Vous savez, moi, j'aurais aimé plutôt que... Parce que on augmente, on ne donne pas d'arguments, on ne donne pas de raisons. C'est quand même compliqué. Et quand vous êtes dans un service public, il faut que l'État communique pourquoi informe quand même l'opinion de la raison pour laquelle il y a cette augmentation. On ne va pas venir découvrir sur le site que les frais ont doublé. Aujourd'hui, déclarer une association Togo, c'est le même prix que faire un passeport.
Ouais.
Vous comprenez ça? Et quand je dis ça, il ne faut pas penser qu'aux associations qui seront déclarées à Lomé. Il y a des gens à l'intérieur du pays, comme Ambroise l'a dit. Et il y a des clubs sportifs à l'intérieur qui ont besoin d'être déclarés. Mais ils font comment? J'aurais aimé plutôt qu'on dise, si vous voulez créer une fondation, la déclaration c'est tant. Si vous voulez créer une association, tant, la déclaration c'est tant. Pour les clubs, associations sportives, la déclaration c'est tant. Mais si on avait serré les montants, on pourrait comprendre. Et là, on peut dire, ben, quelqu'un qui veut créer une fondation, ça voudrait dire que tu as les moyens. Si tu veux créer une association sportive, on sait que le sport, on connaît le domaine du sport, surtout à l'intérieur du pays. Mais regardez, les gens, les associations, quand on est dans les régions où on encourage la pratique du sport, où on voudrait que les gens puissent véritablement pratiquer le sport pour faire ceci, faire cela, mais une association ou bien un club sportif qui se crée à Guérin-Couka. À 30 000 francs. Je veux dire qu'ils n'ont pas de l'argent. Hein.
Voilà.
Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle les réalités de l'intérieur du pays. Okay. Maintenant, après, il faudrait que l'autorité... Non, avec Pascal, il faut ce sujet, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Parce que les 30 000 francs, tu vas les payer demain quand tu vas avoir envie de créer une association. Je vais les payer.
Oui, mais justement,
on va payer et tout le monde va payer ici.
Je voudrais qu'on parle d'une autre réalité également à l'intérieur du pays. C'est Jean Polorini qui revient également sur un sujet là et par rapport aux médias. Vous écrivez médias, le préfet de Thône se substitue à la HAC et fait arrêter une émission en cours de diffusion.
Oui, Pascal, j'aurais aimé vraiment que tu puisses aborder ce sujet beaucoup plus tôt afin qu'on ait vraiment du temps pour abonder. Mais avec le peu du temps qui nous reste, je vais m'y lancer. Vous savez, c'est un fait récurrent aujourd'hui à Dapan, dans la région des Savanes, que le préfet fasse arrêter des émissions ou dès qu'il a vent qu'il y a une émission avec laquelle il n'est pas d'accord, on envoie un Bataclan, soit c'est des corps habillés qui viennent. L'émission n'a pas lieu. Je vous explique. Mardi passé, il y avait une émission à 19h. C'est une émission qui traite des sujets comme le Club de la Presse.
Sur quelle radio?
Radio Courtoisie, notamment, qui est partenaire de Canal FM et qui rediffuse actuellement en direct le Club de la Presse. Et l'émission a commencé à peine 30-40 minutes. C'est le préfet qui appelle la promotrice, la directrice de la radio, qui dit de faire arrêter cette émission en cours. Parce que selon lui, on raconte des faussetés dans l'émission. La dame dit, ok, je vais donner les instructions. À peine quelques minutes après, c'est le commandant de brigade de la gendarmerie qui appelle également. Oui, je viens d'être saisi par le préfet qu'il y a une émission où on raconte des mensonges. Est-ce que vous avez fait arrêter l'émission? La dame dit, oui, j'ai déjà donné des consignes. L'émission a été arrêtée. Et ça, ce n'est pas la première fois que cette situation arrive. Je rappelle qu'en 2022, il y avait une émission qui devait avoir lieu et... Un des responsables de la radio a été appelé par, d'abord c'était le préfet, qui a dit, l'émission que vous devez avoir à 16h, vous m'annulez ça. Il a donné l'ordre. On lui dit, mais c'est la HAC seule qui a l'autorité de faire annuler une émission. Monsieur le préfet, est-ce que vous ne connaissez pas les règles dans la matière? Allez, il a raccroché, après c'est le CB qui appelle. Et il dit au responsable, si vous tenez à votre vie, faites annuler cette émission.
Ah bon?
Et jusqu'à 16h, je vous dis, c'est les camions là de FDS qui est arrivé, qui a garé devant la radio. Ça dit, vous faites hell, on prend votre matériel en même temps. Donc c'est comme ça on gère actuellement les médias dans la région de Savanne. Et ce n'est pas une seule fois. Ce n'est pas la première fois que cette situation se pose. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut que la HAC puissent taper du poing sur la table ou bien rappeler à l'ordre les préfets via le ministère de tutelle qui est le ministère de l'administration territoriale. Parce qu'il ne revient pas à un préfet d'interdire une émission ou d'arrêter une émission. Ce n'est pas normal. C'est la HAC, après un service de monitoring, qui a le pouvoir. Parce que c'est la HAC qui régule les médias. Pourquoi les préfets s'immiscent dans la gestion des médias comme ça? Et ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs cas de conscience, on vous explique. Vous comprendrez qu'à l'intérieur, la liberté d'expression n'est pas comme dans la capitale. Vous imaginez qu'à Lomé, ici, on ne libère pas le passage. Un préfet peut taper et dire que, preuve de la preuve d'aujourd'hui, là, faites arrêter l'émission. Ce n'est pas possible. Mais ici, parce que les yeux des gens sont ouverts, à l'intérieur, ce n'est pas ça. Vraiment, nous interpellons la HAC. Et que ce préfet vraiment ne pense pas qu'il est en train de servir l'intérêt supérieur de la nation. Au contraire, il sape la politique du chef de l'État qui a lutté depuis des années pour que l'espace médiatique soit libéralisé. Aujourd'hui, plusieurs apprécient l'espace médiatique au Togo. On ne va pas reculer à des années-lumière.
D'accord. Ambrose.
Oui, est-ce que Fonia Sibé est au courant de ça? Pourquoi je pose cette question? Peut-être lui veut remplacer Kouloum, le fameux Kouloum qui est décédé tout récemment. On doit lui demander s'il est actuellement en enfer ou il est au paradis. Lui. Je ne le fais pas pour jeter le pauvre sur une famille. Je parle du commandant Kouloum qui est décédé.
Du major.
Du major. Parce que quand le gars est décédé, il faut aller sur les réseaux sociaux, sur les médias, vous allez voir l'accueil qui est réservé à sa dépouille, contrairement à l'ancien DP et directeur de cabinet de la primature, M. Sinfei Tchéou. Dans la vie, si vous faites bien, les hommes, ils vous accompagnent. Je l'ai dit la dernière fois ici. Mais si vous faites du votre show, là, vous serez seul dans votre cercueil. Seul dans un cercueil, ça dit que ça a un sens. On est toujours seul dans son cercueil.
C'est ce que moi, je l'ai dit.
Vous serez seul dans votre cercueil. Ça a un sens spirituel. Le préfet, là, donc imaginez s'il était militaire, comme les autres. Qu'est-ce qu'il va devenir là-bas? Le CB, lui aussi, on lui donne, il se lève un matin, paf! Il va garer le véhicule pour intimider les gens. Je crois que c'est la HAC qui doit faire ce travail. Des fois, on appelle président, mais en fait, lui, est-ce que c'est son rôle? Et le président vous donne la latitude, selon les lois de la République, d'exercer vos pouvoirs. La HAC doit exercer son pouvoir de régulation et d'intervention si la liberté de presse est brimée dans un secteur d'activité par un kidam, par un bizarroïde. Vous comprenez? Et donc, moi je dis aujourd'hui qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas se taire.
D'accord. Oui, d'accord. Et l'homme?
Oh, moi, je vais inviter Radio Courtoisie à prendre à bras le corps le problème en saisissant les institutions qu'on a.
C'est un coup actuellement même.
La HAC, l'OTM, le ministère de la Communication, saisir également les institutions concernées pour qu'un plaidoyer soit fait à faire. Parce que ce n'est pas la première fois. C'est une récidive. Parce que le code de la presse et de la communication est clair en ces articles. Il va pas, c'est pas un préfet qui rédige le code de la presse. Je suis désolé. Le législateur a tout prévu dans la loi. Donc, c'est le droit de la radio de pouvoir ester contre le préfet au niveau de se plaindre au niveau des institutions. Parce que c'est une émission qui n'est pas propre à la radio, d'accord? C'est une émission où tout le monde écoute. Donc, s'il y a des manquements, c'est à la HAC seule d'apprécier et de pouvoir taper du poing sur la table. Mmh. Donc, que la HAC soit saisie officiellement, que l'OTM soit saisi, que le ministère de la Communication soit saisi, afin qu'une solution rapide soit trouvée.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons
maintenant aborder aussi. Radio Canal FM n'est pas écouté à Tapamé. Je crois que c'est Radio La Paix ou Radio La Paix.
Oui, c'est Radio La Paix.
Ah, donc, on vient de m'informer que la radio n'est pas écoutée là-bas.
D'accord. Et la personne est à Takpamé.
Oui, oui.
D'accord. Et là, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. On revient juste après pour donner la parole à nos auditeurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur que nous avons en ligne. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
C'est monsieur Nick.
Monsieur Nick?
Oui.
Allez-y.
Bon, j'aimerais participer à l'émission.
Oui, oui, vous y êtes, allez-y.
Pour le moment, je vais aborder le cas de la grosse tournée.
Oui.
Bon, si au cas, dans un établissement, on se rencontre un élève, il prend la drogue ou bien il a pris la drogue, et que les résultats sont confirmés, cet élève doit être exclu toute une année entière sur le territoire togolais. Peut-être avec ça, ça va attirer son attention sur le danger et aussi les parents aussi vont voir l'effet et suivre l'enfant tout le temps. Bon, de l'autre côté, concernant l'interdiction pour le truc de l'animation de la radio vers le nord, bon, des fois, les gens disent qu'ils trahissent la politique de l'État. Pardon. Ce n'est pas lui qui nomme ses fonctionnaires, ses cadres. Il doit se baser sur certains critères pour que ces gens, dans le temps, ne savent pas sa politique. Donc, moi, je ne peux pas comprendre pourquoi on va dire que le chef d'État fait bien, son entourage, sa politique. Non! Il faut être propre de la tête jusqu'au pied. Merci.
D'accord, merci beaucoup, M. Nick, pour votre contribution. Après, M. Nick, nous avons un autre auditeur. Allô?
Allô?
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va et chez vous?
Évangéliste Senghor.
Oui, c'est Évangéliste Senghor, allez-y.
Bon, moi, je voudrais m'intéresser sur deux points, deux sujets sur le point de la drogue dans les établissements.
Oui.
Vous savez, la jeunesse, c'est la relève de demain. C'est pour ça que nous prions. Parce que parmi la jeunesse togolaise, il y a des présidents dedans qui vont faire la paix de ce pays. Il y a des premiers ministres. Pourquoi? Mais si nous les laissons comme ça, qu'est-ce que la jeunesse togolaise deviendra? Moi, ma proposition est telle. Appelons les pasteurs, les hommes de Dieu, les prêtres, si c'est possible. Prenez 5 à 10 minutes sur les mains pour la prière des conseils, la sensibilisation. C'est ce que les gagnants font, à ce moment-là, les gagnants font ce que les gens font. Le gouvernement fait. Avant qu'ils ne rentrent à l'école et dans les classes plutôt, on est là, les jeunes serviteurs de devenir passer et la jeune maintenant, prier et leur donner des conseils. Tu vois que c'est une bonne chose si les autorités sont à l'écoute. Deuxième point, les frères journalistes. Je suis dans la cinquantaine, je n'ai jamais vu que la population togolaise est en train de manger dans les dépotoirs, c'est-à-dire sur les dépotoirs. Pourquoi je dis ça? Un de vos collègues, de votre collègue tout à l'heure, disait que la société n'a pas présenté des excuses. Mais c'est normal. Je le dis, c'est pas que ils nous prennent comme des animaux ou des hommes au Togo. En réalité, le gouvernement togolais, monsieur le président, fait la cible, devait fermer le bébé là et il reste jamais sur place. Parce que c'est des embêtes, c'est ça ne va pas. Vraiment que Dieu bénisse le Togo.
D'accord, ouais. Merci Évangéliste Senghor pour votre contribution. Allô? 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je me porte très bien.
C'est Arma.
C'est Arma, oui.
D'accord,
bonjour
allez-y.
Le plateau.
Oui, bonjour.
Il faut dire que concernant l'histoire de la brasserie, bon, je ne comprends pas très bien parce que d'après ce que nous avons eu comme information, la brasserie avait commandé un certain tonnage de riz pour la production de ces boissons. Mais entre-temps, c'est-à-dire, ce tonnage n'était pas réutilisé, c'est-à-dire après les analyses. Mais il y a des procédures. Si au niveau des institutions et des usines, dans ces cas, il y a des procédures qu'on respecte. Mais pourquoi la brasserie n'a pas respecté ces procédures et qu'elle est maintenant obligée d'aller jeter comme ça des trucs avariés qui peuvent causer de graves ennuis à la population sur des dépositoires? Ça, vraiment, sa responsabilité pour moi est engagée. Aussi pour dire concernant nos jeunes frères, les gens disent d'aller les sensibiliser, mais je ne comprends pas. Les parents sont les premiers responsables de leurs enfants. Donc l'éducation doit prendre d'abord racine à la maison. Ce n'est pas l'école. L'école ne donne que l'instruction. L'école forme le citoyen de demain, mais c'est les parents qui doivent donner l'éducation la plus complète à leur enfant.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, comment vous allez?
Oui, ça va, merci.
Votre nom, c'est?
C'est Jean.
Jean, vous nous appelez de quel quartier?
Togo 2000.
Togo 2000, allez-y.
Je voudrais parler des impôts.
Oui, allez-y.
Franchement, les impôts, les jeunes créent des sociétés, ils n'arrivent pas à rien faire, mais c'est les impôts qui sont derrière. Au niveau de CSE là-bas, il y a de plusieurs entreprises qui se créent. Ils n'ont qu'à chercher à savoir, il y a combien qui se ferment. Les jeunes sont fatigués, s'il vous plaît. Par rapport aux impôts, franchement, il faudrait que les impôts revoient leur démarche. Sinon, sur plusieurs entreprises créées, il y en aura plus de 90% qui seront fermées. Il y a des communes que vraiment, je ne voudrais pas appeler. Chaque jour, c'est derrière les jeunes. Les entreprises qui se créent, qui se naissent, ils n'ont rien fait, mais c'est les impôts qui demandent des taxes. Ils n'ont rien fait. Où est-ce que tu as trouvé pour payer? Il n'y a pas de travaux.
D'accord. Merci beaucoup.
Je voudrais que les impôts changent leur démarche, sinon ça ne va pas.
Ok, merci beaucoup, monsieur Jean, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce jeudi. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, chef.
C'est monsieur Niamavor.
C'est Niamavor.
Allez-y.
Oui, l'interdiction dans le Nord de parler contre le pouvoir. C'est-à-dire qu'au Nord, on ne doit pas troubler le sommeil du président fondateur qui rêve tout le temps un Togo meilleur. Mais on se retrouve sur les dépotoirs pour les riz avariés et on sort. Vous savez pourquoi nous, on a commencé par appeler? C'est devant, les militaires ont gardé ces institutions-là qui faisaient le trading ici, les gens ont perdu leur vie comme ça, ils ont investi devant les forces de l'ordre. Mais l'État a balayé en bloc qui ne reconnaît pas ça. La dernière fois, vous avez débattu d'une société que l'État dit qu'il ne sait pas. Imaginez, tu es avec ta famille à la maison, quelqu'un vient enceinte, ta fille, tu dis que bon, ok, il était dans la maison, tu ne sais pas qui l'a logé là-bas. C'est difficile, on ne peut pas comprendre ce pays-là. Concernant l'interdiction là, il y avait dans une vérité, je ne vais pas donner, je vais taire le nom, un monsieur qui faisait le foot quoi, c'est-à-dire qu'il faisait les petits filets là, pour sélectionner les équipes. Mais qu'il a l'autorisation à la mairie, le préfet est descendu sur le terrain, il a présenté l'autorisation du maire, il dit s'en fout, il arrête ça, soit il dit, mais sous le financement. Donc, à l'intérieur, la politique ne dit pas. C'est devant nous, on est rentré, notamment, bastonner les gens, tout simplement, ils sont derrière l'opposition. Donc, les activités du Nord, après tous les gens vont venir, les mêmes personnes vont venir sur les antennes, et l'opposition ne fait rien sur le terrain. Chaque fois, quelle voix a parlé à l'intérieur du pays? Soit, comme l'a dit le commandant, s'ils veulent leur vie, ils n'ont qu'à arrêter. Ils veulent arrêter cette émission. C'est ça qu'on vit dans ce pays. Bonne émission.
Merci, monsieur Niamavor. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission, lors de ce jeudi, j'allais dire. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Et là, Matissobé, vous avez écouté les uns les autres. 30 secondes pour une réaction.
Non, je n'ai pas de commentaire par rapport à l'avis des auditeurs. Peut-être revenir sur le sujet sous nous, c'est très important. Comme je l'ai dit, le tissu social est fragile et les textes, il faudrait que les responsables de cette banque fassent les choses dans les textes, enfin dans les règles de l'art, en respectant les textes. C'est très important parce que vous savez, il y a des choses que nous ne voudrions, nous ne souhaiterions pas pour l'instant dire, parce que les gens, ils disent qu'on veut licencier des personnes pour motifs économiques, mais au même moment, ils se décaissent 20 millions pour rester dans un hôtel, se partager des jetons de présence pour travailler sur le plan de licenciement. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez, on est où là? Donc à un moment donné, il faudrait que, franchement, je sais pourquoi je dis, il y a des choses qu'on ne souhaiterait pas dire sur ce plateau. Ceux qui ont fait ça, ceux qui sont en train de faire ce plan ou de devoir exécuter ça, ils se connaissent. Et ils savent que dans les tests du Saint-Banque, c'est interdit de pouvoir licencier un agent de banque qui est souffrant, qui est malade. Sinon, vous l'envoyez où? À la morgue? Sinon, le gars ne travaille pas, il est malade, il est à la maison, vous voulez qu'il trouve les sous pour aller à l'hôpital. Vous l'envoyez à la morgue. Et donc, en réalité, il faudrait que les gens qui sont peut-être dans les salles climatisées, dans les bureaux climatisés, qui sont bien assis, qui voyagent, qui roulent carrosse, qui se partagent 20 millions de jetons de présence en une réunion pour planifier les plans de licenciement d'autres personnes, il faudrait qu'ils puissent réviser leur copie. Merci.
Merci. Alors, Amraj, 30 secondes.
Oh, bon, moi, j'ai un message à envoyer à ceux qui se cachent derrière le parti au pouvoir pour commettre des bévues, pour commettre des injustices, de cesser de le faire. Parce que demain, ça rattrape. Vous avez beau être parmi les officiers, les hauts officiers supérieurs de l'armée, vous avez beau être un ministre, vous avez beau être un DG, vous avez beau être un simple militant zélé du parti au pouvoir, sachez que chaque personne a son temps. Et le moment viendra, vous payez tout ce que vous avez eu à faire.
D'accord.
Parce que quand vous le faites, les gens vous regardent. Leurs enfants vous regardent. C'est eux qui vont vous dénoncer demain. Ne le faites pas pour créer des problèmes à vos enfants.
D'accord. Oui, Jean-Paul Rodmi.
Oui, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je voudrais interpeller le ministère des Enseignements primaires et secondaires par rapport à l'article que nous avons fait aujourd'hui à la manchette dénommé Togo Éducation. SOS pour le peuple Mango Douane. Ça fait 7 mois qu'un orage s'est abattu sur la ville de Mango et le peuple Douane de Mango, deux bâtiments ont été décoiffés depuis avril 2024. Nous sommes actuellement en octobre 2024. Les bâtiments n'ont plus été recoiffés. Un autre bâtiment est tombé. Actuellement, les élèves de l'EPP Mango Douane, quand il n'y a plus, on les renvoie à la maison. Ils sont à la merci de l'eau et du soleil. Et c'est des gymnastiques, on a jumelé les classes. Ça fait 7 mois. Nous sommes au 21e siècle. Le ministre Kokoroko, nous l'apprécions pour ce qu'il fait de bien. Qu'il prenne à bras le corps ce problème-là et que rapidement, on rénove ces deux bâtiments-là. Parce qu'on a lancé récemment la construction de 14 000 classes. Avant de construire les 14 000 nouvelles classes, qu'on rénove ces bâtiments-là qui sont tombés.
D'accord, le message est passé. Alors, merci beaucoup, Jean-Paul Origny, pour avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Canal D et l'homme Antisobé. Merci.
Merci, Pascal. Et je voudrais aussi inviter les gens à faire un tour du côté d'Intercave La Rose à Védi, en face du restaurant Opéra.
D'accord. Et je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Ambroise Monzo, merci d'être passé aussi dans cette émission. Merci. Directeur de publication du journal des Guadians, merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossouf. Je vous retrouve demain, vendredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.